Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bienvenue dans cette émission Partager le savoir. Le 31e colloque international de l'Alliance française se tenait les 27, 28 et 29 janvier 2009, boulevard Raspail à Paris. Il réunissait les directeurs des alliances françaises dans le monde et à cette occasion recevait le président Valéry Giscard d'Estaing, membre de l'Académie française. Alors je vous propose d'écouter dans un instant ses propos et sa vision de la culture française à l'étranger.
Je crois que vous réfléchissez pendant ces trois jours autour de la question de ce que vous appelez la géostratégie des langues. Bon, c'est une appellation pompeuse, un peu. Et ça veut dire, en effet, quelle est la place qu'auront la langue, la culture française, et d'ailleurs d'autres langues, d'autres cultures, bien entendu, dans le monde de demain. Et je voudrais essayer de vous présenter, avant les questions et les réponses que vous m'avez annoncées, Jean-Pierre, quelques remarques très simples. D'abord, naturellement, il y a le problème mondial. Dans le problème mondial, il y a un facteur qu'on tient peu en compte dans les débats intellectuels ou politiques, c'est la démographie. Et la population mondiale a explosé et s'est diversifiée. Vous savez que la population mondiale était au début du XXe siècle inférieure à 2 milliards d'habitants, qu'elle est à l'heure actuelle supérieure à 6 milliards d'habitants et qu'elle est en route pour un sommet qui se situera sans doute dans les années 2040-2050 où elle culminera au-dessus de 9 milliards d'habitants. Lorsque j'ai dit aux Français comme président de la République, lorsque j'exerçais cette fonction, que désormais dans le monde, il n'y avait sur 100 personnes qu'un seul Français, ils ont ressenti ça comme une insulte. Ils m'ont dit, vous cherchez à nous humilier. Non, je cherchais à les informer, pour qu'ils aient une vue juste, qu'on puisse situer exactement ce que nous sommes, ce que nous représentons, etc. Et il faut accepter les chiffres. Or, nous étions à peu près 1 sur 100, lorsque j'en ai parlé en 1975, nous sommes actuellement aux alentours de 1 sur 110 et nous serons encore un peu moins dans les années à venir. Et ces mouvements de population, naturellement, ont des conséquences culturelles, parce qu'on voit émerger de grands pays avec de grandes langues, par exemple la Chine avec la culture Han. On voit émerger le Brésil avec sa culture particulière, brésilienne et portugaise à la fois. Donc on voit apparaître de nouvelles entités dans le monde. Et naturellement, nous devons être sensibles à notre situation dans cet univers. Et quelle est la définition qu'on peut donner de la France dans cet univers? Je dirais c'est une grande puissance moyenne. Vous me direz, c'est contradictoire. Non, c'est une puissance moyenne parce que ça n'est pas par sa population, ça l'est encore un peu par son économie, mais pas par sa population. Ça n'est pas un État qui se classe dans le groupe de la Chine, de l'Inde ou des grands pays très peuplés comme les États-Unis et l'Amérique. Mais ça n'est pas non plus un petit pays. C'est un pays moyen qui est au sommet des pays moyens. Et au fond, c'est une situation assez confortable. Parce que dans cette situation, on peut être soi-même, en fait. C'est-à-dire, on voit les autres tels qu'ils sont, on reconnaît leur importance ou leurs caractéristiques, et on existe pour soi-même, en tâchant d'être aussi bon et meilleur que les autres. Or, cette France, grande puissance moyenne, a des avantages, en fait. Elle a d'abord, curieusement, parce qu'au fond, on ne sait pas très bien pourquoi, une grande vitalité démographique. À l'heure actuelle, dans tous les pays d'Europe, avec la Grande-Bretagne, qui a aussi une vitalité démographique, nous sommes les seuls dont la population augmente. Et elle augmente du fait, naturellement, des femmes. Les hommes jouent un rôle bien connu, d'ailleurs. Mais les décisions sont essentiellement féminines. Et depuis l'an 2000, il y a une progression sensible de la natalité en France. Et d'ailleurs, si vous regardez autour de vous, dans le monde du travail, dans le monde de ce que vous connaissez, vous voyez apparaître cette vague. Or, c'est un indice de vitalité fort, parce que c'est un indice d'optimisme. Et ensuite, cette grande puissance moyenne, elle est assez équilibrée. Vous avez des pays qui se sont déséquilibrés. Je prends par exemple le cas de nos amis britanniques qui ont concentré toute leur vie économique sur quelques activités qui connaissent à l'heure actuelle les plus grandes difficultés. Non, la France a une vie équilibrée, c'est un grand producteur agricole, comme on le sait, mais qui a gardé également une industrie très active, qui a des sociétés de services nombreuses, qui est un des sites touristiques mondiaux, donc qui est au fond un système relativement équilibré, et ce qui à la fois la protège un peu dans les circonstances actuelles, et lui donne des chances, un panel de chances. Enfin, elle a une culture parmi les plus riches du monde. Et chose curieuse, nous en avons à la fois la conscience, mais nous ne l'évaluons pas très bien. Quand on regarde, après une succession d'expositions, une succession de lectures, la vie d'un certain nombre de nos sites archéologiques ou architecturaux, on s'aperçoit que nous sommes probablement, là aussi, soyons modestes, mais probablement le concentré de culture le plus important du monde. Nos amis chinois remontent dans le temps, antérieurement, mais c'est une remontée historique en quelque sorte. L'épanouissement de la culture chinoise, avec d'ailleurs Confucius, c'est le 5e siècle, c'est-à-dire contemporain des grands tragiques grecs et du début de notre culture méditerranéenne. Et cette culture française, qui est un confluent de cultures, puisqu'on trouve à la fois l'apport méditerranéen, l'apport germanique, parce que n'oublions pas que les Francs, c'est une tribu germanique, et en même temps, par la suite, l'arrivée de populations, les unes d'Italie, les autres de Pologne, les autres de la communauté juive, c'était constitué un groupe qui est un groupe, au point de vue culturel, exceptionnellement riche. Alors, ce groupe parle une langue, cette langue qu'on appelle improprement le français, parce que si c'était le français, ça serait une langue germanique. Les Francs parlaient un patois germanique, y compris qu'à Bruxelles, enfin dans toute cette zone. Et nous, c'est la reconquête gallo-romaine, faite parce que nous parlons une langue latine. Le français est une langue latine, très belle langue latine du groupe des langues latines. Et cette langue latine est devenue au 19e siècle, 18e siècle déjà, une langue de communication mondiale pour l'époque. Alors, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Quand nous disons ça, nous imaginons qu'au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, tout le monde parlait français. Mais non, c'était la langue des élites, en fait. C'était la langue de la bourgeoisie, des gens aisés, des diplomates. Les peuples parlaient chacun leur langue, naturellement. Et par exemple, les Russes, jusqu'à Pouchkine, ne parlaient pas français. Ils parlaient un patois russe devenu la langue russe. Mais l'élite, alors le mot élite est très ambigu et difficile à utiliser à l'heure actuelle, mais l'élite mondiale parlait à l'époque français. Et alors, nous gardons toujours l'idée que ça pourrait recommencer. Non, ça ne peut pas recommencer. C'était un événement historique particulier. Il n'y avait que l'Europe dans le monde, comme le monde identifié. Dans cette Europe, la France était de loin le pays le plus peuplé et militairement puissant, le plus puissant, à l'exception des fantaisies de certains de ses généraux sous le XVIIIe siècle. Et donc, il y avait une espèce de présence dominante, en réalité. Naturellement, ces éléments ont changé, et donc, si on voulait être une langue mondiale de communication, la place est prise. Elle est prise par l'anglais, qui n'est pas exactement l'anglais, qui est le Mid-Atlantic English, qui est une langue intermédiaire entre l'anglais et l'américain, qui est d'ailleurs une langue simplifiée, parce que c'est une langue d'usage. ce n'est pas une langue de littérature, ce n'est pas une langue d'expression savante, c'est une langue, c'est un outil de communication. Et les dernières années, avec à la fois le développement des moyens de communication du cinéma et de la télévision, avec le langage informatique, ont conforté la situation pour l'anglais de cette langue de communication. Mais il reste un espace pour une langue de culture et de pensée. Parce qu'au fur et à mesure qu'une langue devient une langue, un instrument de communication, elle s'appauvrit. Elle s'appauvrit au point de vue grammaire, s'appauvrit un peu au point de vue vocabulaire, ou en tout cas elle se déforme au point de vue vocabulaire, et elle laisse ouvert l'espace, le grand espace de la culture et de la pensée. Et je pense que dans vos alliances françaises, c'est très important de faire sentir que ceux qui apprennent le français, ils apprennent à l'heure actuelle une langue de culture, en fait, qui élargit leur culture. Même s'ils sont des gens modestes qui n'ont pas d'ambition culturelle, en fait, ils enrichissent leur culture. Et en même temps, ils se dotent eux-mêmes d'un instrument de pensée plus élaboré. Alors vous me direz, quelle culture, cette culture française ? Quelle culture ? Et c'est un beau sujet pour vous, je pense que d'ailleurs vous devez en discuter, Jean-Pierre et M. Jacques, parce que je sais que vous faites des conférences dans vos alliances françaises, vous invitez des personnalités, et où est la culture française ? Dans l'histoire et dans les objets. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu de très grandes époques de culture française, dominantes dans le monde. Le mobilier mondial a été français. La période de 1720, la Révolution française, tout le monde avait un mobilier français. La peinture de la fin du 19e siècle, bon, il y avait d'autres peintres, n'exagérons pas, il y avait des écoles moins connues mais très intéressantes, notamment aux États-Unis. La peinture de la fin du 19e siècle dans les musées est française, partout dans le monde. Donc je crois qu'il faut rechercher un peu ces moments forts de la culture française et voir comment on peut les faire connaître et les partager avec ceux qui militent ou apprennent dans vos associations. Alors ma deuxième remarque, Jean-Pierre, je finis parce qu'ensuite on a des questions prévues, c'est en Europe. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? L'Europe aurait pu, comme les États-Unis d'Amérique, se doter d'une seule langue au moment de sa fondation, c'est-à-dire dans les années 1950. Elle ne l'a pas fait. Elle a choisi de garder plusieurs langues. D'abord, les langues des deux plus grands pays de l'époque, qui étaient l'Allemagne et la France, et aussi sous la pression du problème linguistique belge, d'autres langues, comme par exemple le néerlandais, l'italien, etc. Et finalement, nous avons à l'heure actuelle un système étrange, puisque nous sommes l'organisation continentale qui utilise le plus de langues. Nos amis chinois utilisent une langue écrite, une seule, langue Han. Les États-Unis utilisent une langue. Ils ont maintenant de plus en plus de très grandes minorités qui sont notamment la communauté hispanique. Les Brésiliens parlent portugais, quelle que soit leur situation à l'intérieur du pays. Mais nous, nous parlons 22 langues. Alors on peut se dire que ce n'est pas raisonnable. Mais comment peut-on faire évoluer la chose ? Et quelle peut être la place du français ? Je me souviens que dans la Convention européenne, qui rédigeait un très beau texte, la Constitution européenne, texte superbe, qu'il fallait adopter, évidemment, c'était le bon sens, non ? Non, mais c'est évident, on serait beaucoup mieux dans notre peau à l'heure actuelle si on avait la Constitution, on n'aurait pas la rotation des présidences, etc. Enfin, on ne l'a pas fait. Il y a eu un débat sur les langues. Et l'idée générale était de dire, mais en Europe, cessons d'avoir des systèmes compliqués, il faut pouvoir décider à la majorité. Donc, on va décider à la majorité sur tous les sujets. C'était la discussion abstraite. Et à ce moment-là, un parlementaire suédois, qui est un homme tout à fait distingué, prend la parole et dit « il va falloir tout décider à la majorité, alors moi je propose qu'on décide à la majorité de n'utiliser que 4 langues en Europe. » Huée générale dans la salle, refus général. Je crois quand même qu'il faudra avancer. Vous savez que lorsqu'on reproche à la Commission européenne d'employer trop de monde, elle emploie un peu plus de 20 000 personnes, il y a plus d'un tiers qui sont les interprètes. Traducteur, interprète. Parce que nous avons un système qui est la traduction de toute langue en toute langue. Et donc, quand il entre un nouveau, comme par exemple récemment, pendant le cas ou à venir de la Croatie, il faut recruter des interprètes pour que tous les textes en croate soient traduits dans les 22 autres langues et que les 22 autres langues soient traduites en croate. Donc, c'est une loi mathématique connue qui augmente indéfiniment le nombre. Je pense qu'on devrait faire évoluer les choses progressivement et dire ce que nous avons fait dans la Convention européenne, que chacun a le droit de parler sa langue. C'est un espèce de besoin identitaire ou d'expression, qu'il a le droit de parler sa langue, mais que sa langue n'est traduite que dans les langues de discussion, la traduction. Et en sens inverse, chacun doit suivre les débats dans les langues de traduction. Et si on veut le faire traduire dans sa langue nationale, on recrute des interprètes qu'on paye. C'est ce que nous avons fait à la Convention européenne. Et finalement, ça s'est bien passé. Alors, quelles seraient ces langues de discussion en Europe? Ça serait la langue d'abord des deux pays qui ont les langues les plus parlées, qui sont l'allemand et le français. Ça serait évidemment l'anglais, qui est un peu moins parlé en Europe, mais qui est une langue omniprésente dans la vie contemporaine. Et se poserait probablement le problème de la quatrième langue parlée, qui est l'italien, voir s'il y a une demande, un besoin pour que... Voilà. Donc il y aurait au fond 4 langues. Et les autres auraient la liberté d'expression dans leur langue, mais la traduction ne se ferait que dans les langues de discussion. Alors, si on prend le cas du français, lorsque nous avons travaillé sur la Constitution européenne, les débats, y compris, il y avait deux niveaux de débat, ce qu'on appelle présidium, qui était un petit groupe, 13 personnes, qui préparaient un peu les discussions, et puis il y avait la Convention elle-même, qui siégeait au Parlement européen, qui était d'ailleurs ouverte au public et totalement transparente, ce qui n'est jamais le cas des institutions européennes. Pensez, par exemple, que les débats de la Commission ne sont pas transparents, c'est qu'il n'y a pas de journalistes, et que les débats du Conseil ne font l'objet d'aucune diffusion. Donc on ne sait pas ce qu'on dit, ce que prennent les positions des uns des autres. À la Convention européenne, tribune pour les journalistes, constamment ouverte, et tout le texte était le jour même mis sur Internet, toutes les propositions. Et conclusion simplement que je voulais retirer dans ce cas, c'est que nous devrions effectivement en Europe aller vers un système d'expression et de communication simplifié dans lequel les langues de débat seraient principalement l'anglais et aussi l'allemand, car nous ne devons pas ignorer que nos amis allemands, leur langue est la plus parlée en Europe. Elle est peu parlée par les autres, mais elle est parlée par les Allemands eux-mêmes, bien sûr. Elle est parlée par les Autrichiens et elle est parlée par des minorités de langue germanique dans un certain nombre d'États. Donc c'est la langue la plus parlée en Europe, bien que peu de gens, hélas, fassent l'effort de la parler. Et ensuite vient le français. Alors le français, ça devrait être la langue écrite de l'Europe. La langue de la pensée européenne. Quand nous avons eu à rédiger des textes, parfois difficiles, textes sur les origines chrétiennes de l'Europe, textes sur le droit d'initiative en Europe, lorsque nous discutions en anglais, la discussion était assez floue, en fait. Elle restait un peu non conclusive. Et nous passions en français, et là, on arrivait à des notions beaucoup plus précises. Donc, au fond, moi, j'imagine une Europe dans laquelle tout le monde devra parler trois langues. Vous voyez, l'effort intellectuel. Mais enfin, comme on vit 20 ans de plus, on peut faire un effort un peu prolongé pour apprendre les langues. On parlera sa langue maternelle, on parlera l'anglais et on parlera, écrira le français. C'est le système dans lequel il y aurait une cohérence à la fois, parce qu'il faut une langue pour discuter. Si vous discutez dans des langues qu'on traduit, il n'y a pas de réactivité, en fait. Donc il faut une langue, et comme l'anglais tend vers cette fonction, on reconnaîtrait cette fonction, par contre, presque à égalité, sur le plan du travail, de l'analyse, des textes, des projets, on utiliserait la langue française. Alors, dernier mot avant des questions. Vous représentez, parce que vous êtes individuellement, le milieu éducatif, le milieu culturel. Les uns français, les autres dans tous les très nombreux pays où existent des alliances françaises. Et il faut réfléchir, au fond, à la fois à mettre en valeur notre patrimoine et en même temps à corriger nos défauts. Une chose très bizarre dans la vie des peuples ou des gouvernements, c'est que généralement, les dirigeants ne cherchent pas à corriger les défauts des peuples. Et même, ils les utilisent, ils les flattent. Hein ? Oui, il y avait des spécialistes, celui qui m'a succédé était excellent d'ailleurs dans ce domaine. Et moi, je souhaite que la culture française retrouve son parfum spécial qui était la raison et l'ouverture. Même dans les périodes de grande agitation intellectuelle, comme la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'était la raison qui guidait les débats, les attitudes. Et d'autre part, l'ouverture, ouverture sur des idées nouvelles, ouverture sur des réalités nouvelles, ouverture sur des pays nouveaux. Et par contre, que des défauts qui sont infiltrés dans notre système de culture, tels que la prétention et tels que l'égoïsme, soient refoulés hors de notre système culturel. Et je crois que si nous le faisons, nous donnerons une image plus sereine et plus valorisée de ce superbe monument humain constitué par la langue et par la culture française.
C'était donc Valéry Giscard d'Estaing, président et membre de l'Académie française, qui intervenait à l'occasion du 31e colloque international de l'Alliance française, qui réunissait les directeurs des alliances françaises du monde et qui avait lieu les 27, 28 et 29 janvier 2009, boulevard Raspail à Paris.